la boîte vocale.
Je ne trouve pas scolaire dans vos contacts. Je ne trouve pas scolaire dans vos voulez-vous appeler.
Est-ce que ça marche? Le bug. Insecte. Dysfonctionnement informatique. Blâme porté par un système fautif. Que révèle cette notion de nos paradigmes épistémologiques et socio-économiques? Aujourd'hui, nous examinons la place du dysfonctionnement dans nos systèmes sans cesse optimisés pour la productivité.
Retrouvez un approfondissement du sujet, passant par une réflexion sur Socrate, les GAFAM et l'hégémonie de l'intuitivité et de la facilité technologique, dans le nouveau livre de Marcello Vitali Rosati, L'éloge du bug, paru le 7 mai 2024 aux éditions Zone et disponible en ligne gratuitement, en page web et en PDF. Tous les liens sont dans la description de cet épisode.
Bienvenue à
Scolaire. Théorie dysfonctionnelle.
Une balado-diffusion qui nous explique
que la théorie ne
sert à rien,
mais qu'elle a le mérite
de nous faire perdre beaucoup de temps.
Bonjour tout le monde, nous recevons aujourd'hui Marcello Vitali Rosati, chaire de recherche sur les écritures numériques du Canada et professeur à l'Université de Montréal. Avec moi dans la salle, nous avons
Arélise Gia. En effet, nous recevons aujourd'hui Marcello Vitali Rosati qui normalement nous aide à animer les épisodes. Donc aujourd'hui, c'est un épisode plutôt spécial parce que Marcello se retrouve dans la position d'invité. Alors Marcello, je te laisse te présenter.
Bonjour, oui, merci. En effet, je suis dans la double position de co-créateur du podcast et invité. Donc, merci de m'inviter, Arélis et Yann. Je suis professeur au département de littérature de langue française à l'Université de Montréal.
Quel concept est-ce qu'on va explorer aujourd'hui, Marcello?
Le concept de bug.
On va avoir besoin d'une plus grosse élaboration. Donc déjà, est-ce qu'on peut avoir une définition du concept de bug? On dirait que c'est un concept que beaucoup de gens connaissent déjà. C'est même un mot peut-être même galvaudé. Dès qu'il y a un problème, on se dit « Ah mon Dieu, c'est un bug ». Est-ce que c'est quelque chose qui veut dire plus que ce qu'on pense? Quelle est la définition?
Alors, une définition minimale de bug serait un dysfonctionnement quelconque dans un environnement informatique. Donc, du code qui se comporte de façon inattendue ou de toute manière de façon différente par rapport à ce qu'on s'attendrait. En réalité, le terme bug initialement signifie en anglais spectre. C'est la première définition que donne par exemple le Century Dictionary de 1901 et c'est un mot qui signifie, donc qui dériverait du gallois et qui ferait référence à des créatures imaginaires dont les attributs principaux seraient l'effet d'être invisible et l'effet d'être terrifiant. Ensuite, ce mot est mis en relation avec une deuxième signification, celle qu'on connaît le plus aujourd'hui, celle d'insecte, ou pour être plus précis, de punaise, ou pour être encore plus précis, de la Chimex lectularius, à savoir la punaise de lit. Alors, on pourrait se demander quel est le rapport entre le bug en tant qu'insecte et le bug en tant que spectre. Alors, en fait, c'est que le bug est quelque chose justement d'invisible et qui fait peur, qui apparaît normalement la nuit. Et en fait, c'est de là que la relation avec la punaise arrive. Les punaises des lits sont des êtres très petites, c'est 5 millimètres en moyenne, et qu'on ne voit pas, donc qui sont invisibles, et qui pourtant nous gênent et même nous terrorisent, nous rendant impossible de dormir. Donc ça, c'est l'idée initiale. Et ensuite, on commence à tester des usages métaphoriques du mot pour parler d'un problème technique. Ces usages sont déjà testés en 1875. Alors, par exemple, il y a une phrase qu'on trouve « The biggest bug yet has been discovered in the US Hotel Electric Annunciator ». Donc, ici, c'est clair que « bug » signifie « problème technique ». On sait que Edison, par exemple, utilisait le mot pour parler des dysfonctionnements dans ces systèmes. Donc, ce ne sont pas nécessairement des systèmes informatiques, mais des systèmes techniques, hein, donc un téléphone ou quelque chose qui dysfonctionne. Alors, on pourrait encore une fois se demander les liens, donc on passe du spectre à la punaise de lit et finalement au bug informatique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et on pourrait se demander pourquoi, d'où vient cet usage métaphorique. Alors il y a une histoire très connue qui est souvent citée quand il s'agit de parler de l'origine des bugs informatiques. Donc en 1947, le Harvard Mark II, donc c'est un grand ordinateur de la Harvard University, commence à dysfonctionner et la chef d'équipe, Grace Hooper, cherche la raison de ces dysfonctionnements et trouve dans les mécanismes de l'ordinateur un papillon de nuit. Et du coup, ce papillon est pingé dans le logbook et dans le logbook, Grace Hooper ou quelqu'un d'autre de l'équipe écrit « First actual case of a bug being found ». Alors, souvent, on a dit que c'était, cette phrase signifiait que c'était la première fois qu'on utilisait le terme « bug », mais comme je viens de le dire, ce n'était pas le cas parce qu'il était déjà utilisé dans les contextes techniques au 19e siècle. Donc, il faut comprendre cette phrase de façon ironique. Hein. Il y a de l'ironie de Grace Hooper qui dit « le premier vrai insecte a été trouvé dans un système ». Donc, on comprend de cette phrase que le terme informatique était déjà utilisé avant. Et donc, finalement, on pourrait se dire que, en réalité, ce n'est pas un insecte dans le système informatique. La métaphore n'est pas tellement ça, mais c'est plutôt un spectre dans le système informatique. C'est intéressant, je trouve, de remonter à cette étymologie-là, parce que le spectre a une différence par rapport à l'insecte. Le spectre pourrait avoir sa propre volonté. Donc, c'est comme un petit être avec une raison qui veut faire des choses méchantes par rapport au système. Donc, il détourne le système, il a une volonté propre.
Le bug est un dysfonctionnement, et ici, c'est un spectre terrifiant. Donc, comment est-ce que ça se lie à notre éloge du dysfonctionnement ici? Qu'est-ce qui est bon du bug?
Alors, qu'est-ce qui est bon du bug? Il est clairement un dysfonctionnement. Hein. Alors, je pense que le bug, on peut identifier au moins trois fonction du bug ou trois caractéristiques du bug qui les rendent, à mon avis, très intéressantes. La première, c'est celle de casser. En fait, le bug fait en sorte que quelque chose qui est en train de fonctionner arrête de fonctionner. Il y a plein d'exemples notables de ces dysfonctionnements. Alors, un très très connu que je vais citer pour faire comprendre cette caractéristique de détruire, destructrice, donc il n'y a rien de constructif là-dedans, on casse seulement. C'est un cas fameux de bug. En 1990, la compagnie téléphonique AT&T améliore les logiciels avec lesquels elle gère les appels de longue distance pour maximiser le fonctionnement de son réseau et augmenter le nombre d'appels traitables. Donc on est vraiment là dans l'optique du fonctionnement. Il faut que ça marche, il faut que ça soit maximisé, il faut que ça produise vite, que ça produise finalement quoi? Que ça produise de la richesse. Donc les logiciels qui s'occupe de choisir les meilleurs chemins pour connecter un point A d'un point B. Et donc, il fait en sorte que le commutateur téléphonique qui est contacté envoie un message au commutateur le plus proche. Et donc, en fait, ils essayent de maximiser cette procédure, mais ce qui se passe, c'est que les commutateurs commencent à envoyer des messages d'erreur parce qu'ils sont trop chargés et le système s'éteint complètement. Donc, résultat, perte économique de 60 millions de dollars pour la compagnie téléphonique. Et en fait, ce qui se passe, donc là, vraiment, on casse un système. Au lieu que maximiser les profits, au lieu que maximiser le fonctionnement, on le détruit, on renverse l'optique. Et ça, c'est une première caractéristique intéressante. Le bug détruit un système. Alors, jusque-là, peut-être rien de bon. Il y a quand même un effet des critiques destructrices par rapport à un système bien huilé. Et donc, il y a quand même cet aspect de résistance à un système de production tel que le système capitaliste. Mais il y a une deuxième étape. En fait, une fois qu'on a cassé, émerge la possibilité d'une réflexion et d'une pensée critique. Puisque ça marche plus, je peux m'interroger sur ce que j'étais en train de faire, je peux réfléchir à ce qui s'est passé. C'est un peu une idée heideggerienne, Heidegger parle comme ça des outils, les outils sont justement utilisables, j'ai un marteau dans les mains, je ne me pose pas la question de ce que c'est que le marteau, je ne vois pas le marteau en tant que tel, je martèle, mais quand le marteau se casse, je vois tout d'un coup que j'ai un marteau dans mes mains. Donc je me pose la question, c'est quoi ce truc? Et qu'est-ce que j'étais en train de faire? Est-ce que j'étais en train de faire ce que je voulais faire ou pas? Donc il y a un moment où on réfléchit sur les enjeux et les raisons pour lesquelles on est en train d'agir. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et il y en a aussi une troisième qui est profondément liée à cette idée de penser le bug comme spectre. et qui est lié à une autre, à une expression très courante dans le monde de l'informatique qui est « it's not a bug, it's a feature ». Donc, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité, c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est-à-dire, si on accepte que le bug, finalement, c'est du code. Hein, le code fait ce qu'on lui demande de faire. Sauf que, quand on a modélisé ce que le code veut faire, on n'a pas pensé à toutes les possibilités, donc il y a toujours des exceptions. Dans ces exceptions qui ne sont pas modélisées, le logiciel, le code, se comporte de manière inattendue. Donc, il fait quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on ne voulait pas. Mais il fait quelque chose. Donc, finalement, d'abord, il casse le modèle. Hein? Ça ne fonctionne plus. Ensuite, on peut réfléchir sur le modèle. Et ensuite, il y a aussi une ouverture d'une nouvelle possibilité. Donc, un nouveau modèle. Il fait autre chose. Alors, juste pour faire un exemple de ce type de situation, je fais quelques recherches sur cette expression « it's not a bug, it's a feature » qui est utilisée très souvent par les développeuses et les développeurs lorsque, en fait, il y a un comportement inattendu d'un logiciel qui a été écrit et que ce comportement, finalement, n'est pas inintéressant. Il propose quelque chose. Je vous fais un exemple assez simple. Alors, sur GitHub, par exemple, dans le repo qui est dédié au développement d'une bibliothèque Python qui s'appelle Requests, qui sert pour récupérer des informations sur le web. En fait, la librairie, la bibliothèque permet de faire des requêtes, comme le nom le dit, et de récupérer, par exemple, de télécharger un fichier. Or, il se trouve qu'il y a un problème qui est identifié, donc on ouvre une issue sur GitHub, qui est un comportement inattendu par rapport à la gestion des certificats de sécurité. Quelqu'un s'est aperçu que quand au lieu que le certificat de sécurité, on donne au code une chaîne de caractères vide, le code permet d'accéder à la ressource sans certificat, donc de contourner la sécurité. Alors clairement, c'est un bug, parce qu'on veut pouvoir contrôler que la connexion se fasse de façon sécuritaire, mais en même temps, les gens qui commencent à commenter ce problème sur le repo GitHub se disent « Non, ne l'enlevez pas, parce que en fait, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité, parce que dans les cas où j'ai pas les certificats de sécurité, ce bug me permet d'accéder quand même à la ressource. » Donc en fait, le modèle est changé, donc on a une bibliothèque qui en principe sert pour accéder à des ressources tout en respectant une série de protocoles de sécurité. Le comportement qui émerge et qui est donc le problème, le dysfonctionnement, est que ces protocoles de sécurité ne sont pas respectés. Mais finalement, on s'est dit, est-ce qu'on veut vraiment les respecter ou est-ce que peut-être on a besoin parfois d'accéder à une ressource sans avoir ce type de contrôle de sécurité? Donc, le comportement inattendu devient un nouveau comportement possible, donc une nouvelle interprétation de ce qu'on peut vouloir, de ce qu'on peut attendre du code.
J'aurais une question un peu naïve et qui reprend une chose que tu as mentionnée au début sur l'intentionnalité possible que le mot « bug » en fait prête au bug. Et je me demande comment est-ce qu'on pourrait mettre en relation donc le bug avec la notion de virus, qui est celle à laquelle les gens prêtent souvent des intentions, plus qu'au bug qu'on s'imagine plus comme un accident ou quelque chose d'inattendu. Est-ce qu'on a ici peut-être une sorte de début d'éloge, peut-être même des virus?
Alors, il y a certes un lien, mais il y a quand même une différence fondamentale entre le bug et les virus. Les virus est un comportement qui est voulu de façon intentionnelle par des personnes qui ont modélisé ce qu'on s'attend du code, mais qui l'ont modélisé, c'est la définition même du concept de virus, de façon malveillante. Donc, il y a une volonté de faire du mal dans les virus qui n'est pas présente dans le bug. Le bug, il ne veut pas faire du mal. Le problème du virus, c'est que il y a derrière déjà une décision par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal, hein, ou en tout cas ce que des personnes veulent. Et il y a cette volonté de faire du mal. Dans le bug, cette intentionnalité n'est pas forcément liée à des ou n'est pas par définition lié à des personnes, c'est le bug lui-même qui veut quelque chose de différent. Donc il y a l'ouverture à une pensée critique, il y a l'ouverture à bloquer un fonctionnement, mais sans pour autant qu'il y ait une volonté de nuire. Ça nuit en effet au système en proposant des fonctionnements différents ou des pistes différentes, mais sans que cette volonté soit modélisée par des personnes malveillantes.
Alors, on a des gens qui connaissent très bien leur système, qui travaillent avec du code, et ils pensent avoir tout réussi, leur système est bon selon eux, et ils appuient sur execute, peu importe, et là, il y a un bug. Qu'est-ce que ça nous dit sur les structures elles-mêmes? Vous parlez dans d'autres podcasts de la matière qui pense. Est-ce que c'est une forme d'émergence, d'une forme de connaissance de la matière, ce bug?
Oui, sans doute. Justement, je parlais d'une intentionnalité du bug qui est sans doute une forme d'intentionnalité de la matière. C'est le code qui veut au-delà de ce qu'ont voulu les développeurs et les développeuses. C'est le code en tant que tel, hein, d'où l'importance d'étudier ces codes, de le comprendre, de comprendre la matérialité du logiciel comme une série d'instructions particulières qui incarnent un modèle représentationnel particulier. Donc il y a sans doute qui est dedans, ce côté matière qui pense, qui impose sa pensée. Il y a aussi évidemment le fait de mettre le doigt sur les limites intrinsèques à la modélisation. Toute modélisation implique une abstraction, c'est-à-dire je regarde le monde et je le décris, mais ma description ne peut pas, par définition, être exhaustive. Il y aura toujours quelque chose qui sort de ma définition. Et donc, tous les comportements que je peux modéliser par rapport à un algorithme, à une fonction ou à un logiciel, en fait, tous les comportements seront toujours limités à ce que j'ai modélisé. Il y aura toujours quelque chose que je n'ai pas modélisé et qui va émerger. Et en fait, cette non-modélisation est très intéressante parce qu'elle nous révèle plein de choses sur les valeurs du modèle. Je fais un autre exemple très simple et qui concerne une expérience que nous avons toutes et tous eue. C'est quand on dit les caractères spéciaux qui sautent sur l'ordinateur. Mmh. Par exemple, j'ai le mot édition et au lieu que voir édition, j'ouvre un HTML avec mon navigateur et au lieu que voir le « et » avec accent aigu, je vois arrobase, quelque chose, symbole, point d'exclamation, ouais. Plein de symboles. Et en fait, ça c'est un bug très commun. Et d'où il vient? Il vient du fait que les caractères, évidemment, sont lus par l'ordinateur grâce à un encodage. L'encodage le plus basique qui est fait normalement par l'ordinateur est un encodage qui s'appelle ASCII, qui modélise du coup ce que sont les caractères. Donc il y a une liste concrètement de caractères possibles et ces caractères, chacun de ces caractères correspond à un code binaire, donc à une série de 0 et de 1. Il se trouve que dans les codes ASCII, alors je peux faire les tests, hein, je peux mettre un caractère comme A et en fait ça marche. Je peux mettre un caractère plus compliqué comme par exemple $ et puis ça marche, mais je mets un E avec accent et ça marche pas. Ça veut dire que le E avec accent n'a pas été modélisé dans la première modélisation de la liste des caractères. C'est intéressant parce que c'est une des raisons pour lesquelles l'ordinateur parle fondamentalement en premier lieu anglais. Toutes les diacritiques des langues comme le français ne sont pas prises en compte de façon native par l'ordinateur, il faut un autre encodage. Donc en fait, ce choix qui est assez basique, donc c'est une modélisation très simple, hein, une liste de caractères et des correspondances avec des codes binaires, en fait, dans cette première modélisation, on a pensé à l'anglais comme langue modèle, au dollar par exemple, comme caractère utile, ce qui révèle pas mal les usages prévus pour l'ordinateur, donc les dollars utilisés en mathématiques, les dollars utilisés évidemment dans un contexte économique, mais le fait de pouvoir écrire en français n'a pas été modélisé au début. Donc là, ça révèle des valeurs particulières qui sont dans un modèle qui est pourtant très basique et le bug, donc les caractères bizarres qui apparaissent sur l'écran quand je mets un E avec accent ou un C avec CDI, encore pire, en fait, nous casse hein, le fonctionnement, donc ça ne marche plus, nous oblige à nous interroger pourquoi ça ne marche pas, nous révèle qu'il y a une modélisation derrière et laquelle nous permettent de réfléchir hein, sur les raisons de cette modélisation, donc la domination de l'anglais dans le monde de l'informatique, par exemple, et donc le lien entre certains contextes socio-économiques et le développement de l'informatique, et à la fois nous propose des comportements autres, donc d'écrire en une autre langue peut-être, ou alors de développer des modèles qui incluent des caractères avec les diacritiques d'une langue comme le français, mais évidemment encore plus des langues qui s'écrivent avec un alphabet qui n'est pas latin et qui justement pose toute une série de problèmes dans l'environnement numérique, des problèmes qui seraient invisibilisés si le bug n'était pas là. Le bug nous permet de nous rendre compte des limites du fonctionnement. Alors que dans la rhétorique qu'on peut appeler la rhétorique des GAFAM, hein, la rhétorique de ces grandes entreprises comme Apple, Google, est celle de « tout fonctionne hein, », l'important c'est que fonctionne, « it simply works hein, », c'était un des slogans de Apple à un certain moment, donc ça marche, puis c'est tout, il ne faut même pas regarder, ne vous posez pas des questions, etc. Ben là, le bug nous permet de dévoiler cette rhétorique-là, d'en comprendre les limites, d'en comprendre aussi la difficulté, hein, les frontières, et d'imaginer hein, des contextes autres.
En sciences naturelles, le moment où la théorie et la pratique ne sont plus en adéquation, donc le bug en physique, en chimie, en biologie, c'est un moment où est-ce qu'on peut réfléchir au paradigme dans lequel la science s'est faite jusqu'alors et potentiellement réussir à le dépasser. Mais ici, on travaille dans un univers qui est le fruit du travail des êtres humains. Comment est-ce que ce bug est-il différent de celui que l'on a dans les sciences naturelles? Qu'est-ce que c'est que de trouver cette inadéquation, mais dans un monde qui est pleinement la création des êtres humains?
Oui, bon, je dirais... En fait, la découverte des limites du modèle est intéressante dans tous les domaines. Je trouve qu'elle est particulièrement intéressante dans un champ dans lesquels on fait tout pour les cacher, ces modèles. Ou justement, à différence peut-être de la mathématique, des mathématiques, au moins des mathématiques en tant que science pure, hein, il semblerait qu'en informatique, justement, l'important c'est que ça marche. Hein. Le fonctionnement semble être un impératif fondamental de l'informatique qui n'est pas un domaine qui se présente comme un domaine réflexif. Du coup, c'est que propose le bug, c'est de voir l'informatique différemment ou peut-être de faire de la place dans l'informatique pour des attitudes telles que la scolaire qui fait le titre de notre balado-diffusion. C'est-à-dire, au lieu que penser le code comme quelque chose qui est là pour produire, pour fonctionner, bah, on peut se poser la question de ce que ça signifie de fonctionner hein, et on peut se mettre du coup dans une attitude différente qui ne cherche pas le fonctionnement mais qui cherche plutôt la compréhension.
Je me demande s'il n'y a pas un intéressant en fait paradoxe qui va se créer au fait de faire l'éloge de ce qui ne fonctionne pas parce que en fait pour que le bug émerge il fallait à la base ne pas le chercher. Or si une des fonctions du bug, c'est de nous permettre de nous remettre en question, de remodéliser notre objet de manière à ce qu'il n'y ait plus de bugs, pour que d'autres bugs surgissent, pour qu'on puisse remodéliser. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de téléologie vers la perfection? Est-ce que notre but au final n'est pas d'atteindre un modèle où il n'y aura jamais de bugs? Faisant l'éloge de la chose même qui nous fait tourner en rond, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de faire l'éloge de son absence? Et puis en plus, c'est en cherchant son absence qu'on la fait émerger. Il y a comme un cycle paradoxal, je me demande si on pourrait en discuter.
En fait, la recherche des bugs à des fins de maximisation est peut-être le champ le plus important de l'informatique. Donc, en effet, n'importe quel développeur ou développeuse est d'abord formé à chercher des bugs. Ça que signifie tester du code. Et il y a toute une série de protocoles hein, et de systèmes et même de logiciels dont l'objectif est, ou d'algorithmes, dont l'objectif c'est de trouver des bugs à des fins de maximisation. Donc, dans ces cas-là, hein, la recherche du bug à des fins de maximisation en effet va un peu à l'encontre de ce que je suis en train de dire. Mm-hmm. Ça rentre dans la maximisation, dans éviter que le modèle fasse quelque chose, éviter que le code fasse quelque chose d'inattendu, donc maximiser, donc faire en sorte que ça marche le plus possible. Encore une fois, c'est une question de perspective, peut-être c'est une question de point de vue, de comment on se situe par rapport au bug. Et là, je fais un éloge du bug, peut-être du bug usagé, de ceux qui ne fonctionnent pas tellement pour ceux qui écrivent le code, mais pour ceux qui l'utilisent. Mm-hmm. Donc c'est ce qui permet de casser ces rapports naturalisés et donc complètement opaques hein, avec la technologie que nous avons. Nous avons l'outil dans nos mains, puis il fait tout bien, et on a l'impression que c'est comme de ne pas l'avoir, cet outil-là. C'est comme s'il n'était pas là, parce qu'il fait, il est neutre, hein, il n'a pas une vision du monde à porter, nous fait simplement vivre mieux. Hein. Mais en fait, le bug nous oblige à nous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire vivre mieux? Par exemple, il nous oblige à nous poser la question des besoins. Je faisais l'exemple de Heidegger et du marteau. Bah, en fait, la première chose que j'ai fait quand j'ai cassé mon marteau, c'est de me poser la question si j'avais vraiment besoin de marteler ou si j'avais besoin de faire une autre chose. Hein, le moment où le logiciel de géolocalisation ne fonctionne plus et les téléphones bug pour une raison quelconque, bah, je me pose la question d'où je suis déjà, où je suis en train d'aller et peut-être aussi est-ce que je voulais vraiment y aller ou est-ce que je voulais rester à la maison. Donc ça nous pose une question qui nous permet, à mon avis, de thématiser une certaine, disons, forte dépendance des technologies que nous avons aujourd'hui. Donc cette idée de déléguer aux technologies toute une série des choses, elles les font, on ne veut pas savoir comment elles les font, on ne veut pas voir comment elles le font, et le bug nous oblige à le voir, nous oblige à nous poser la question, donc nous oblige d'une certaine manière à essayer de nous émanciper.
Il y a une différence importante entre quelqu'un qui est en train de coder et qui trouve un bug et quelqu'un du public qui trouve un bug. Et là, ce rapport à l'émancipation, il demande un esprit critique, il demande une volonté de comprendre. J'ai l'impression que pour beaucoup de gens, le bug est seulement une source de frustration sans réflexion. Qu'est-ce qui nous fait passer de la frustration au questionnement?
Bah, c'est un grand travail à faire, en effet. Nous sommes habitués, par exemple, au fait que les erreurs ne sont pas affichées dans nos plateformes et dans nos environnements numériques. Et quand ils les sont, en effet, comme tu le dis, ils nous dérangent. On veut pas les voir. C'est assez intéressant, au contraire, de prendre le temps pour lire des erreurs. Ils sont moches. Elles semblent moches. Hein. Elles nous plaisent pas. C'est beaucoup de trucs écrits, puis on n'a pas envie de les décrypter. Alors que le moment où on s'émet à les décrypter, bah là, l'intérêt arrive. Là, on comprend quelque chose. C'est vraiment l'effort peut-être de la scoler. Ce qui est intéressant de cette situation, c'est qu'en effet, elle nous fait perdre du temps. Le bug fait perdre du temps. Alors, la question, c'est de dire si nous avons horreur de la perte de temps, ce qui est un peu la caractéristique de notre société, hein, si nous sommes dans l'idée de produire le plus rapidement possible et le plus possible, bah, clairement, le bug empêche cette productivité et donc, il nous énerve. Hein. Donc, pour faire l'éloge du bug signifie mettre radicalement en question la volonté de productivité et la volonté de fonctionnement. Donc le fait de se dire, le fait que ça marche pas, le fait que je sois obligé de perdre du temps, finalement, ça peut être une bonne chose. Ça, c'est intéressant pour toutes formes, parce que, bon, le bug, au sens propre, du coup, c'est cette chose qui ne fonctionne pas, donc simplement quelque chose, l'outil cassé. Mais en fait, il y a d'autres typologies de bugs qui sont un peu moins des bugs et plus, disons, des formes de dysfonctionnement plus larges. Par exemple, l'outil complexe. L'outil qui repose sur un modèle qui n'est pas le modèle dominant et qui, du coup, nous demande déjà de lire les manuels. On se met devant, un environnement d'écriture comme Vim, que vous savez, j'aime beaucoup. Bah, en fait, la première réaction d'un usager, une usagère habituée à un modèle dominant comme celui de Word, par exemple, bah, c'est de dire, ça marche pas, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, j'appuie sur des touches et puis il y a rien qui est écrit sur... Et alors, là, le fait, c'est pas du tout que Vim ne fonctionne pas ou qu'il bug dans le sens propre du mot, mais c'est que le modèle qui est derrière est beaucoup plus complexe, ou en tout cas, très différent par rapport au modèle auquel nous sommes habitués. Donc, c'est clair que si nous ne voulons perdre de temps, la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas se poser la question sur le modèle, finalement, de ne pas se poser la question sur ce que nous sommes en train de faire, juste de faire. Hein. Le bug oblige à casser ce flux de fonctionnement et à se mettre dans une position complètement différente. Ça, c'est quelque chose qui, pour la plupart du temps, est énervant pour nous. Justement, ça nous fait perdre du temps. Mais ça nous pose aussi la question de pourquoi on s'énerve autant à perdre du temps.
Ironiquement, les modèles simples comme Word sont ceux qui demandent une beaucoup plus grande complexité technique que, par exemple, Vim, ce qui est quand même intéressant.
Bah, et en fait, ils sont finalement pas simples, ils sont juste naturalisés. C'est-à-dire que le modèle, en réalité, est très complexe et parfois même très compliqué. C'est juste que nous y sommes tellement habitués que ça nous semble normal, ça nous semble naturel, ça nous semble neutre. Mais en réalité, ça l'est pas. Ça a demandé un processus de naturalisation. Donc, nous nous sommes habitués à ces modèles jusqu'à ne plus les voir, jusqu'à penser qu'il est le seul possible et jusqu'à penser que c'est la seule manière de vivre. Donc, le bug nous empêche de penser ça et donc c'est aussi une invitation à la multiplicité.
Alors pour conclure, une dernière question qui nous ramène au titre même de la balado. Quel lien peut-on établir entre donc cette notion de bug et la scolée, qui est vraiment un effort contemplatif, en fait, qui n'est pas une passivité et qui exige de ralentir et de prendre le temps de vraiment réfléchir à ce qu'on fait?
Mais justement, c'est une des choses qui m'intéresse le plus du bug, c'est son lien avec la philosophie. La philosophie peut être considérée comme une forme de bug, et la philosophie peut être évidemment considérée comme une forme ou la forme par excellence de la scolaire. Socrate est l'exemple par définition de personnages qui bug. Il y a plein d'anecdotes sur cette situation-là racontées dans les dialogues de Platon. Alors typiquement, hein, dans le banquet, Aristodème va avec Socrate chez Agathon, et puis Agathon arrive Aristodème arrive chez Agathon, il se tourne et Socrate n'est plus là. Et Agathon lui dit il est où, et en fait Aristodème dit il s'est bloqué au milieu de la rue. Il était en train de marcher, puis à un certain moment il s'est bloqué. Et en fait il se bloque vraiment comme un ordinateur qui plante, il bug, il reste là, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, on ne sait pas trop, il est dysfonctionnel. Ça lui arrive tout le temps, ça lui arrive dans le Phèdre, par exemple, quand il essaye de passer l'Ilysos, donc le fleuve, pour rentrer chez lui, après avoir fait le premier discours contre l'amour, et en fait, il essaye de passer, et là aussi, il reste bloqué. Et là, Phèdre lui dit qu'est-ce qui se passe, et il répond, quand j'étais sur le point de traverser le fleuve, il m'est arrivé ce qui m'arrive, dit Socrate, tout le temps. Donc, il bug tout le temps, c'est pas une seule fois. Il y a mon démon qui m'empêche toujours de faire ce que je suis sur le point de faire. Donc quand on est sur le point de faire quelque chose, donc l'action, le bug arrive et il bloque l'action, et du coup il oblige à faire autre chose. À faire quoi? Là c'est l'émergence de la philosophie. Alors toujours en parlant du Phèdre, qui est un peu le dialogue de la scolée, quand le bug empêche à Socrate de continuer à agir, il se met dans un état de scolée. Il y a le mythe des cigales, donc il y a les cigales qui chantent, les cigales qui sont les déesses de la scolée, et en fait l'idée de Platon et donc de Socrate et Phèdre, c'est que au lieu que se mettre simplement à se reposer parce qu'on est fatigué, il faut se mettre dans une attitude de scolaire, donc discuter. Donc la scolaire n'est pas tellement le fait de ne rien faire, mais c'est au contraire le fait de s'engager à faire quelque chose qui par contre n'est pas ce qui semble être la chose la plus simple à faire, c'est-à-dire produire ou faire fonctionner les choses. Donc c'est là où il y a un lien entre bug et scolaire, et cette idée d'effort de la scolaire. La scolaire n'est pas une attitude passive, la scolaire est peut-être l'attitude qui, justement parce que quelque chose ne va pas comme prévu, parce qu'il y a quelque chose de cassé, je suis obligé de perdre du temps. Mais donc c'est une perte de temps militante, c'est une perte de temps active, c'est une perte de temps qui permet l'émergence de la pensée critique, c'est une perte de temps qui permet l'émergence de la philosophie.
Alors, merci beaucoup pour cet exposé super intéressant qui maintenant nous fait voir donc le bug non seulement comme lieu d'émergence de la pensée critique, de confrontation à l'altérité aussi, à l'inconnu. Alors c'est vraiment un épisode qui vient vraiment nous ramener à notre thème principal qui va traverser toute la balado. Donc merci beaucoup Marcello.
Merci d'avoir écouté Scolet, une balade aux diffusions proposée par la chaire des recherches du Canada sur les écritures numériques. Nous espérons que vous ne retrouverez pas le temps perdu, mais que vous continuerez à en perdre encore, en nous suivant sur scolet.écriturenumérique.ca, S-K-H-O-L-E, écriturenumérique au pluriel.ca, et en écoutant nos prochains épisodes.